Conclusion. La pensée dominante de cet écrit s'y révèle à chaque page, à chaque ligne, à chaque mot. Mais un lecteur attentif se sera sans doute aperçu que je taisais quelque chose, que j'évitais ou que j'ignorais l'objection avec laquelle on croit renverser mon système. Je n'ai ni ignoré ni évité cette objection. J'en ai seulement réservé l'examen pour la conclusion de ma plaidoirie. On dit. Entre les cinq parties que, selon vous, on pouvait prendre après les journées de juillet, vous auriez voulu qu'on adoptât celui de la légitimité. Pure rêverie. Gardez votre Henri V avec les prêtres, la congrégation, les jésuites, la cour, les gentilshommes ordinaires et extraordinaires, les officiers de la bouche et du gobelet, les cuisiniers, les menins, les chasses éternelles, l'étiquette et les faveurs d'antichambre. C'est ce que la nation ne voulait plus, c'est ce qu'elle ne voudra jamais. La prolongation de ces abus aurait amené une révolution plus sanglante et plus terrible que celle de juillet. Le malheur a-t-il éclairé ceux que vous défendez? Voyez auprès de cet enfant votre chimère, ces mêmes hommes qui l'ont perdu et qui lui soufflent les mêmes préjugés, ces hommes qui l'endoctrinent du droit divin et lui prêchent l'absolutisme. Ces hommes qui finiront par en faire ou un crétin, ou un fanatique, ou un prince impie et débauché, car un mal produit souvent un mal contraire. Chose étrange et curieuse. L'éducation des deux cousins est précisément ce qui met le plus grand obstacle à leurs prétentions respectives. Mais le duc de Reichstadt est un homme, le duc de Bordeaux un enfant. On peut amender dans celui-ci ce qu'on ne saurait plus corriger dans celui-là. Si Henri V nous fût demeuré après les journées de juillet, le château avec toutes ses superfétations n'aurait pas été possible, encore bien moins l'éducation qu'on réprouve. Mais le jugement porté sur les hommes qui environnent le royal élève est trop général et trop rigoureux. Quelques-uns de ces hommes ne sont point étrangers aux lumières et aux opinions de leur siècle. Ils ont autant de mérite et de modération qu'ils ont de fidélité. Celui même qui marche à leur tête est un militaire de probité et de religion. C'est beaucoup d'avoir mis au fond du cœur d'un enfant les vertus. Il sera plus aisé d'élever ensuite les idées sur cette base solide. D'après des rapports uniformes et authentiques, cet enfant annonce un mélange heureux d'esprit et de bonté. N'est-ce rien encore pour son éducation que les malheurs dont son berceau est environné? N'est-ce rien que ce chef-d'œuvre de l'adversité, la fille de Louis XVI, la compagne et la sœur de Louis XVII, placée au berceau de Henri V, comme un tableau sacré suspendu devant un autel? Néanmoins, si vous critiquez cette éducation, qui vous assure que le plan n'en sera pas modifié, que l'on ne se mettra pas en mesure de recueillir les éventualités de l'avenir, après avoir laissé échapper un présent rempli des plus magnifiques certitudes? J'ai dit des vérités aux hommes de la France. Oserais-je prendre en finissant la respectueuse liberté d'adresser quelques paroles aux hommes de l'exil? Ils sont rentrés dans la douleur comme dans le sein de leur mère. Le malheur, séduction dont j'ai peine à me défendre, me semble avoir toujours raison. Je crains de blesser son autorité sainte et la majesté qu'il ajoute à des grandeurs insultées qui désormais n'ont plus que moi pour flatteur. Mais je surmonterai ma faiblesse. Je m'efforcerai de faire entendre un langage qui, dans un jour d'infortune, pourrait préparer une espérance à ma patrie. L'éducation d'un prince doit être en rapport avec la forme du gouvernement et les mœurs de son pays. Or, il n'y a en France ni chevalerie, ni chevalier, ni soldats de l'oriflamme, ni gentilshommes bardés de fer, prêts à marcher à la suite du panache blanc. Il y a un peuple qui n'est plus le peuple d'autrefois, un peuple qui, changé par les siècles, n'a plus les anciennes habitudes et les antiques mœurs de ses pères. qu'on déplore ou qu'on glorifie les transformations sociales advenues. Il faut prendre la nation telle qu'elle est, les faits tels qu'ils sont, entrer dans l'esprit de son temps afin d'avoir action sur cet esprit. On veut aujourd'hui une monarchie de raison et non de sentiment. Le monarque qui a le plus de chances de maintenir en France l'ordre et la liberté est celui auquel, tôt ou tard, la couronne sera dévolue. Si l'on ne voit dans Henri V que le chef d'une petite faction, qu'une pagode sainte dont les droits sont réputés antérieurs et supérieurs à ceux du peuple, qu'un enfant revendiquant un sceptre par la seule raison qu'il est fils de son père, c'en est fait de lui. La légitimité est une religion dont la foi est morte. Cette religion serait encore la meilleure sanction des droits de la nation en ce qu'elle communique à ses droits quelque chose d'historique et de traditionnel, de fort et de sacré. Mais elle ne tire plus son pouvoir d'elle-même. Quelques faux amis d'une jeune mère, pleine de charme, d'infortune et de courage, disent parfois que Henri IV a recouvré son trône, le haubert sur le dos, les houseaux aux jambes et l'épée au poing, que si dans la politique on faisait sans cesse intervenir la morale rigoureuse, rien ne serait possible pour les honnêtes gens, tandis que les méchants, moins scrupuleux, triompheraient toujours. À cela je réponds qu'au temps où nous vivons, il n'y peut avoir que des guerres civiles entre des idées et des opinions diverses. Les plus fortes et les mieux conduites tueront les autres et régneront. L'exemple tiré du Béarnais n'est pas applicable à l'époque où nous sommes. Les discordes religieuses avaient désolé la France longtemps avant qu'Henri IV combattît pour le sceptre que lui laissait Henri III. Placé à la tête du parti protestant, élevé sous la tente, n'ayant jamais quitté le sol natal, il était général et soldat lorsque la couronne lui échut. Il ne vint donc point dans sa propre cause troubler un royaume paisible. Loin de diviser les Français, il les réunit. Il mit fin, en montant sur le trône, à 40 années de guerre civile. Les notions sociales n'étaient pas d'ailleurs ce qu'elles sont aujourd'hui. La civilisation était beaucoup moins avancée. Ce qui ne choquait personne dans un temps où les libertés et les lumières n'étaient pas le partage de tous, serait insensé, odieux et criminel aujourd'hui. Quant à la Vendée, dont on cite l'héroïque dévouement, on commet à ce sujet une autre erreur. La Vendée, frappée de lois d'exception, deviendrait un colosse auprès duquel ceux qui la calomnient aujourd'hui seraient de bien petits garçons. Le général Lamarque en a parlé en ennemi généreux et en homme qui se connaît en courage. La Vendée, inactive et silencieuse, demeure comme une preuve vivante que l'opinion attachée au pouvoir d'aujourd'hui n'est pas l'opinion générale de la France. Mais la Vendée précipitée sans être attaquée dans une guerre civile verserait en vain son sang. Lorsqu'elle était dans toute sa puissance, a-t-elle transporté Louis XVII de la tour du Temple au château de Versailles? Ce qu'elle n'a pu faire pour l'orphelin captif, le pourrait-elle pour l'orphelin banni? Ces combats de laboureurs, que Buonaparte appelait des combats de géants, ces 900 000 hommes égorgés, n'ont consacré qu'un immortel, mais inutile sacrifice. Faudrait-il compter sur les armées étrangères? L'Europe n'a jamais voulu rétablir en France la famille déchue. Au congrès de Châtillon, il n'était pas question d'appeler Louis XVIII. Après la bataille de Waterloo, il était question de l'exclure. Ce fut par une nécessité politique que l'autorité revint aux enfants de Saint-Louis. Si l'Europe prenait aujourd'hui les armes contre nous, si par malheur elle se servait du nom du duc de Bordeaux, ce nom ne serait que le voile des projets les plus sinistres. L'Europe victorieuse exigerait le démembrement de la patrie de Henri V et la perte de toutes les libertés nationales. Mes yeux ne verront point ce jour. Il me resterait, j'espère, encore assez de force pour mourir dans les rangs de mes concitoyens. Mais avant de tomber, j'aurais combattu l'étranger. Eût-il apporté dans ses bras le dernier rejeton de cette race à qui je dévoue ma vie ? Je ne sais qu'un moyen de ramener au foyer paternel l'enfant voyageur égaré sur la terre, la volonté des Français, l'accord du peuple et des pouvoirs de l'État. Si le deuil ne pouvait sortir de la France, si fatigué d'errer de système en système, de gouvernement en gouvernement, si trompé dans tous ses essais, foreclose de toutes ses espérances, elle n'apercevait de port de salut qu'au trône légitime. Alors le banni reviendrait, sans avoir coûté une larme et une liberté à sa patrie. Roi déjà dans les cœurs par ses infortunes et son innocence. La mère de cette tendre victime ne peut assurer, mais elle peut préparer cet avenir en dirigeant l'éducation de son fils. Arrivera sans doute le moment où l'orphelin sortira de ce château des Stuarts, asile de mauvais augure qui semble étendre l'ombre de la fatalité sur sa jeunesse. Le dernier né du Béarnais doit se mêler aux enfants de son âge, aller aux écoles publiques, apprendre tout ce que l'on sait aujourd'hui. Qu'il devienne le jeune homme le plus éclairé de son temps, qu'il soit au niveau des sciences de l'époque, qu'il joigne aux vertus d'un chrétien du siècle de Saint-Louis les lumières d'un chrétien de notre siècle, que des voyages l'instruisent des mœurs et des lois, qu'il ait traversé les mers, comparé les institutions et les gouvernements, les peuples libres et les peuples esclaves. Que simple soldat, s'il en trouve l'occasion à l'étranger, il s'expose au péril de la guerre, car on n'est point apte à régner sur des Français sans avoir entendu siffler le boulet. Alors, on aura fait pour lui ce qu'humainement parlant on peut faire. Mais surtout, gardez-vous de le nourrir dans les idées du droit invincible. Loin de le flatter de remonter au rang de ses pères, préparez-le à n'y remonter jamais. Élevez-le pour être homme, non pour être roi. Là sont ses meilleures chances. Enfin, si la Providence inclinait vers lui la volonté des Français, il ne doit reparaître au milieu d'eux que comme le premier citoyen, sans garde, sans cour, sincère ami des institutions qu'il aurait jurées. Afin d'éviter toute réclamation, je voudrais que le peuple fût consulté, que le suffrage universel remît la couronne à l'enfant de Robert le Fort, espèce de sacre politique qui précéderait, sans l'exclure, le sacre religieux. Aux deux bouts de la lignée se trouverait ainsi l'élection des Francs et des Français. C'est assez. Quel que soit le conseil de Dieu, il restera au candidat de ma tendre et pieuse fidélité une majesté des âges que les hommes ne lui peuvent ravir. 1000 ans noués à sa jeune tête le pareront toujours d'une pompe au-dessus de celle de tous les monarques. Si dans la condition privée il porte bien ce diadème de jour, de souvenirs et de gloire, si sa main soulève sans effort ce sceptre du temps que lui ont légué ses aïeux, quel empire pourrait-il regretter ? Dans la transformation sociale qui s'opère, le duc de Bordeaux ne serait peut-être rien sur le trône. Hors du trône, le 37e descendant de Hugues Capet, l'héritier de Philippe Auguste, de Saint-Louis, de Charles V, de Louis XII, de François Ier, de Henri IV, de Louis XIV et de Louis XVI, est le roi des siècles, le passé couronné vivant au milieu de l'avenir. Post-scriptum. Tandis que je corrigeais et qu'on imprimait au fur et à mesure les feuilles de ce petit ouvrage, le rapport de la commission chargée d'examiner la proposition relative au bannissement de la branche aînée des Bourbons a eu lieu. Ce rapport fait honneur à M. Amilot, qui conclut à la suppression de la peine de mort. Espérons que la Chambre sera frappée des raisons déduites par M. le rapporteur. Elles sont à peu près celles que j'énonce moi-même dans cet écrit. Cependant, M. Amilot, après avoir observé que « la mesure de prudence soumise à la Chambre n'est ni un jugement, ni une loi pénale, mais une loi politique », se trouve embarrassé par la supposition de l'infraction du bannissement. Et il est obligé de dire que « le législateur, dans de hautes circonstances, voit toutes les combinaisons rentrer dans son domaine parce que le salut du peuple est la suprême loi. » D'un autre côté, il déclare que si, oubliant la clémence d'un grand peuple, il venait, entre parenthèses, les princes déchus, provoquer à la guerre civile et tramer des complots, dégradés de leur dignité, dépouillés de leur puissance, il tomberait comme un accusé vulgaire sous l'action ordinaire des lois. Il résulte de ces deux réserves qu'en supprimant la peine de mort en apparence, on la laisse revenir par deux voies, la législature et les tribunaux ordinaires. Nous le savions tous, des princes dépouillés de leur puissance peuvent être traînés à l'échafaud comme des accusés vulgaires. Si la famille déchue venait provoquer à la guerre civile et tramer des complots, elle tomberait sous l'action ordinaire des lois. Qui de nous ignore que les princes malheureux provoquent toujours à la guerre civile et trament toujours des complots? Monsieur le rapporteur a trop jugé des autres par sa candeur. Dieu préserve les exilés en changeant d'exil, d'être jamais jeté sur les côtes de France. On ne manquerait pas de témoins pour accuser devant la justice la famille naufragée d'avoir conspiré avec les vents. L'adversité n'obtient point de pardon. Le droit de grâce ne s'étend pas jusqu'à ce crime. Je ne ferai donc point de carton pour les pages où j'examine les conséquences de la peine de mort, puisqu'elle demeure cachée au fond de la loi. Le nom est effacé. La chose reste. D'ailleurs, les chambres n'ont pas prononcé, et les débats peuvent amener une conclusion différente de celle de la commission. Je conviens que les législateurs sont placés dans un labyrinthe inextricable. Comment prononcer un bannissement qui n'est qu'une simple déclaration? Et comment ajouter une pénalité à la rupture du ban? Comment vouloir et ne pas vouloir, punir et ne pas punir, laisser en paix les fauteurs et adhérents de la famille déchue et ne rien faire contre cette famille si les flots la poussaient dans nos ports? Il est évident qu'il n'y a qu'un parti à prendre. Rejeter une loi qui ne peut être qu'atroce ou inconséquente, c'est ce rejet que je sollicite. Et pourquoi envelopper les Buonaparte dans la destinée des Bourbons? Pourquoi frapper du même coup ce qui, depuis 20 ans, nous a donné gloire et liberté? Pourquoi interdire l'entrée de la France aux parents du dominateur de l'Europe et l'ouvrir à ses cendres? Les dernières sont bien plus à craindre, leur conspiration bien plus redoutable à la monarchie nouvelle que le retour et les complots supposés de quelques individus arrachés à l'exil. Elles s'agiteront à chaque anniversaire de leur victoire. Tous les jours, sous leur colonne, elles diront à la quasi-légitimité passante « Qu'as-tu fait de l'honneur français ?» Par un hasard singulier, en défendant les Bourbons, j'ai défendu les Buonaparte, sans me douter que cette dernière famille serait attaquée. Heureux si cet écrit exerçait quelque influence sur la législature. Si on laissait, comme je le demande, les héritiers de Henri IV et de Napoléon, libres de revoir leur patrie.